Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Nous accueillons aujourd'hui l'artiste plasticienne Julia 108. Megan Mathieu, rédactrice chez Zone Critique, a écrit à propos de son travail un texte que nous allons lire ici en guise d'introduction. Ici, les tons qui s'étirent nonchalamment. Là, le ventre rondouillard qu'une colline offre aux nuages. Un peu plus loin encore, le cours tranquille d'une rivière qui, chatouillée par les galets, pépille sous le toit des arbres. Pour Julia 108, diplômée de l'ESPA Moco de Montpellier, un morceau de nature peut servir de thème à toute une vie. C'est un peu son panthéon. Sa lecture des éléments qui l'entourent est presque animiste. Elle est de ces artistes qui se percent des lueurs d'un coucher de soleil, de la cadence de leurs reflets sur l'eau, de ceux aussi qui aiment prendre le temps. Elle contemple, ressent et crée. Les trois actions sont si bien mêlées qu'elle réalise désormais des installations in situ. Touche à tout et foncièrement curieuse, Julia 108 dessine, peint, sculpte et construit. Ses créations très diverses suivent tout un même fil rouge. La cueillette, le recyclage et le réemploi. Elle prend un peu à la nature, sans l'abîmer jamais, pour la montrer sous un angle nouveau. Résolument, elle expérimente. Les pigments sont ses fleurs, ses pierres, qu'elle a glanées de la forêt ou sur la plage. Les matériaux qui font le corps de ses œuvres sont aussi cueillis au fil de ses promenades. Et elle nous invite à apprécier les racines profondes de l'homme à travers son art. Bien ancré de la terre, enfoui dans une nature qu'à tort, on peut renier. C'est son instinct, happé par la beauté diverse des choses naturelles, par leur harmonie, leur équilibre, qui guide son œil, puis sa main. Dans ses ouvrages, l'art ancestral qui s'unit étroitement aux éléments organiques côtoie un renouvellement. Ce que l'artiste confond son langage avec celui de la nature. Elle illustre autrement à travers les symboles et les tournures poétiques. Ainsi, elle développe des images qu'elle a perçues depuis toujours autour d'elle, quand, dans la maison familiale levée au cœur des Cévennes, elle considérait l'expression des châtaigniers ou celle des chênes. Il y a aussi celle qu'elle a appris à lire, apprendre justement. Voilà le cœur de son projet. Apprendre à créer avec la nature, sans autre artifice que celui de sa main qui assemble. Sa démarche empirique et spontanée est semblable à celle d'un enfant qui s'émerveille et qui expérimente, tout en adoptant une attitude cérémonieuse, pluriséculaire, faite des rituels, cultivant la précision. Elle persévère, elle préserve la fraîcheur, la candeur de l'enfance. Bonjour Julia.
Bonjour Nadia.
Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui à la radio. Peux-tu te présenter à nous et nous parler de ta pratique ?
Je suis artiste plasticienne. J'aime bien dire maintenant transdisciplinaire, parce que c'est un peu, je crois, une manière de décloisonner les disciplines et de les faire s'entendre, donc de mêler un peu plein de pratiques. Et pour mon parcours, rapidement, donc je suis née à Alès. Petite ville, ancienne ville minière dans les Cévennes. J'ai fait mon parcours scolaire là-bas et ensuite j'ai fait les Beaux-Arts de Montpellier. Donc je suis restée pas mal dans le Midi. Et après, j'ai pas mal voyagé au Mexique, aux États-Unis, à Bruxelles. Et puis je suis arrivée à Lyon où je suis restée un moment dans une friche artistique. Et là, j'ai commencé vraiment à poser mon atelier et à approfondir ma pratique du dessin au début. Parce que c'était un petit atelier, donc je faisais sur papier des petites choses. Et ensuite, ma pratique s'est vraiment révélée être très fort en lien avec les éléments de la nature et le milieu naturel. Et du coup, j'ai eu besoin d'être immergée dans cette nature. Et donc, je suis revenue de là où je suis née. Et j'ai trouvé une vieille maison en pierre magnifique entre la forêt et la rivière vers Alès. Entre Alès et Anduze. Et donc là, j'ai mon atelier là-bas.
D'accord. Donc, quand tu dis transdisciplinaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça s'est élargi. Donc, plus uniquement le dessin, mais j'imagine aussi la peinture. En tout cas, j'ai un vague souvenir. Il y a longtemps que tu peignais pas mal, de façon figurative, par ailleurs. Mmh. Aujourd'hui, comment ça a évolué ?
Alors oui, c'est rigolo que tu parles de ça, parce qu'à l'époque, je voulais beaucoup faire de la peinture et c'est vrai que c'était très figuratif. Et en fait, je me suis un peu détachée de la peinture et de la figuration. Et en fait, c'est plutôt les matières qui m'ont guidée vers telle ou telle technique. Et là, en ce moment, je fais plutôt de l'installation, de la sculpture. Je développe un peu des nouvelles matières avec du recyclage de papier, des colles et des résines naturelles que je fabrique et des incrustations de pierres que je vais ramasser ou de nacre, de bois, de choses comme ça. Et j'ai mis en pause la peinture parce que j'ai eu envie que toute ma pratique soit tournée vers... Enfin, comment dire, qu'elle soit plus en lien avec ma conscience écologique et aussi la nourrir par des techniques parfois plus anciennes. Donc, je me suis formée à l'extraction des pigments végétaux, à la transformation aussi de la terre en pigments et tout ça. Donc, en gros, j'ai mis en pause la peinture pour apprendre de nouvelles techniques. Et là, j'ai très, très, très envie d'y revenir. J'ai aussi chiné plein de vieux tissus de lin, de coton, parce que j'essaye de ne rien acheter dans le commerce et de faire soit avec ce que je ramasse dans la nature, consciencieusement, soit en faisant du réemploi ou du recyclage. Donc du coup, ça va venir guider mes formats, mes techniques, etc. Donc prochainement, revient la peinture et le dessin. Mais là, en ce moment, plutôt sculpture, installation. Alors là, la dernière performance que j'ai écrite et donnée, j'ai donné un premier prototype, mais j'aimerais bien l'approfondir. Elle s'appelait « La cérémonie du haut monde ». J'ai pu la donner à la galerie Porte B à Paris, où j'étais exposée et où je suis réexposée là en septembre. Et en fait, cette cérémonie, je l'ai pensée vraiment comme une cérémonie un peu rituelle qui est donnée sans un mot. Moi, je suis un petit peu comme le guide. Donc, j'accueille 5 personnes dans le silence, c'est-à-dire sans parole, mais en fait, les matières vont parler, à venir s'asseoir et se mettre dans un temps de pause où en fait, moi, je viens apporter des matières naturelles que j'ai collectées amoureusement dans la nature. Des matières naturelles que je ne transforme pas, donc il va y avoir de la lavande séchée, de l'eau de source que je suis allée chercher en montagne, une petite graine qui est translucide, des graines qui s'envolent et qui se sèment par le vent. Et ensuite j'ai construit tous les artefacts, par exemple j'ai construit des balais avec des herbes de la pampa, du bambou, donc j'ai utilisé les techniques de vannerie. J'ai fait un grand balai jeûner. Donc en fait, c'est une cérémonie à la fois un peu symbolique. Par exemple, avec ces balais, je viens nettoyer l'espace réel, mais aussi l'espace mental autour des gens pour qu'ils puissent atterrir en fait dans un moment présent et savourer ces présents en fait de la nature que je considère comme des trésors en fait. Et en fait, c'est des choses très simples. Donc je propose à tout le monde de venir sentir la lavande, de venir boire de l'eau, de regarder la danse d'une graine qui tombe. Et ça se passe dans un temps assez court, ça dure entre 10 et 15 minutes. Et c'est assez beau parce que les quelques réactions que j'ai pu avoir en donnant ce prototype, c'est que vraiment chaque adulte redevient enfant et émerveillé devant ces trésors de la nature. Et j'ai l'impression que ma pratique s'est toujours trouvée un nouveau moyen, un nouveau dispositif d'offrir à voir cette nature en fait qui nous entoure et une nature qui puisse être en fait, assez simple, pas forcément quelque chose d'exotique où je vais préférer, par exemple, montrer une pierre de schiste que de l'or, ou voilà.
Donc là, on est dans une performance qui dure combien de temps ?
Un quart d'heure, je dirais.
Ok.
C'est rapide.
Donc c'est un rendez-vous donné dans un lieu d'exposition ?
Et donné au cœur d'une galerie.
Et on est entouré de tes objets ? À ce moment-là ?
Alors oui, en fait, c'est pour ça aussi que je l'ai appelé la cérémonie du haut monde. Donc pour le titre, ça reprenait un peu cette expression, je ne me rappelle même plus, je crois que c'est dans ce bas monde. Souvent on dit ça. Mm-hmm. Et j'ai un ami qui m'avait repris, parce qu'une fois j'avais dit cette expression et qui m'a dit mais non, on habite le haut monde. Et j'avais trouvé ça hyper beau en fait. Donc je reprends ça et tous les éléments sont effectivement autour de nous. Les balais sont au sol. Et tous les éléments sont après en face du public qui est invité. Et on est tous assis au sol. Là, j'aimerais justement fabriquer des assises en laine feutrée. J'ai récupéré de la laine de mouton en Lozère. Et voilà. Et ça dure un quart d'heure. Et c'est vrai que ce qui est chouette, c'est que comme les matières sont différentes, par exemple, pour boire l'eau, j'ai fait des petits verres en bois, ben chaque matière va me demander d'apprendre une technique. Particulière à la forme que j'ai envie de donner. Donc c'est comme un dialogue comme ça à chaque fois entre les matières et moi. Ben, par exemple, pour porter les graines qui vont s'envoler, c'est des graines de salsifis des prés, c'est comme des très gros pissenlits. J'ai utilisé un quart de rondin de bois qui est très très vieux et que je trouve magnifique. On pourrait croire que c'est presque une sculpture en céramique. Et en fait, elle me sert de présentoir où je pose vraiment juste des graines comme ça. Donc oui, il y a un peu un mélange de formes qui peuvent s'apparenter à de l'artisanat parce que, bah, en fait, c'en est. C'est de l'artisanat, ça va être utilitaire, etc. Oui. Et d'autres formes un peu plus hybrides comme ça.
Et quand tu parles d'installation, ça serait quoi ? Ça serait ces objets qui sont dans l'espace et puis on les découvre ou...
Alors, il peut y en avoir plusieurs formes. Là, en ce moment, j'ai la chance d'être exposée à la Contemporaine de Nîmes. Et donc ça, c'est une installation collective autour du végétal et du soin qui a été pensée et orchestrée par Jonathan Bréchignac, qui est un artiste plasticien aussi. Et lui, il m'a donné carte blanche pour investir les murs. Et donc là, j'ai fait une installation murale entièrement végétale. Et c'est comme un herbier géant, avec que des plantes que j'ai cueillies au fil des saisons dans la région de l'Occitanie. Et donc, c'est des plantes que je cueillais à la base de manière tout à fait intuitive et amoureuse. J'étais sous le charme de leur forme, de leur taille, qui peuvent être parfois minuscules ou géantes. Et petit à petit, je les ai collectées. Et il a bien fallu que je les range quelque part dans mon atelier. Donc j'ai commencé à les accrocher au mur. Et je me suis rendu compte, à la base, je les collectais pour fabriquer des objets. Et, ou des sculptures. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais rien besoin de faire, entre guillemets. J'avais pas besoin de les transformer. Et que juste les agencer dans l'espace, ça les faisait exister autrement.
C'est comme un herbier, c'est-à-dire qu'ils sont pressés ou...
Alors non, c'est vrai que c'est peut-être pas le bon terme, parce que moi je les fais sécher, accrochés au mur, donc ils gardent leur volume, et c'est dans une pièce qui est assez sombre, donc ils gardent aussi à peu près leur couleur. Donc là, ça va faire plutôt, on peut imaginer, comme de grands bouquets, enfin grands ou petits, pour donner une échelle, ça peut aller d'une pâquerette, un bouquet de pâquerettes, à un bouquet de fleurs d'artichaut qui font clairement 1,60 m. Donc c'est vraiment un jeu d'échelle comme ça. Et après, chaque bouquet est noué par des cordes végétales que je fabrique avec des fibres de bananier que l'on trouve aussi dans la région, qui ne sont pas des plantes d'ici, mais qui ont été introduites et qui se plaisent bien. Donc je n'ai pas fait de différenciation entre les plantes introduites et les plantes... je ne sais plus ce que c'est le mot. Je ne sais plus si c'est endémique.
Oui, je pense.
Oui. Et donc j'ai vraiment fait... je trouvais ça joli de se dire que les plantes de notre paysage, à l'image de la migration, etc., c'est en fait les choses qui arrivent, qui sont introduites et qui se plaisent en fait ici et qui vivent là. Donc j'ai cueilli un peu tout ça.
Oui, puis c'est assez documentaire aussi. C'est tout simplement ce que tu trouves autour de toi.
Ouais. En fait, et c'est ça que je trouve assez intéressant dans cette installation, c'est que... ça résume assez bien ma manière de travailler, c'est-à-dire qu'il y a toujours un premier geste qui est assez enfantin, amoureux, intuitif. Je ne me pose pas beaucoup de questions, quoi. Il y a vraiment cette chose de « j'ai envie, j'ai besoin, je le fais ». Et par la suite, je vois une lecture en fait qui donne vraiment du sens et qui va pouvoir avoir un lien avec, bah là par exemple, la botanique et le territoire, et qui va pouvoir un peu se ramifier à plein d'autres histoires ou sciences. Et ça, je trouve ça intéressant.
Donc là, tu t'es laissé aussi guider par d'autres... tu t'es formée auprès d'autres artistes?
Alors du coup, au début, je fais un peu toute seule. Et après, effectivement, ça m'emmène à la rencontre de gens. Et c'est ça que je trouve génial, parce que chaque installation va m'amener à la rencontre d'un humain qui a un lien très fort avec l'environnement. Et ça peut être un artisan, un scientifique. Là, notamment, je me suis rapprochée d'ethnobotanistes qui m'ont aidé un petit peu à répertorier le nom de tous ces végétaux, et qui par la suite me racontent aussi des histoires fabuleuses en lien avec ces plantes. Et voilà. Après, j'aimerais bien peut-être faire évoluer cette installation justement en répertoriant le nom des plantes et pouvoir les donner aux visiteurs pour que ça puisse avoir un petit aspect éducatif. Et je trouve qu'il y a un peu... dans l'idée de compréhension de notre environnement et de conscience de la multiplicité des vivants avec lesquels on cohabite, je trouve que donner un nom à quelque chose, ça le fait exister dans notre vie. Comme les humains, en fait, quand on voit une foule, bon, en fait, on reconnaît personne. Et une fois qu'on a le nom de la personne, on reconnaîtra son visage et on ne peut plus l'oublier. Et ben, c'est un peu pareil avec les plantes. En apprenant à les nommer, on comprend qu'elles existent, on peut comprendre un petit peu leur rythme, etc. Donc j'aimerais bien partager ça, comme ça.
Donc là, tu as pris contact avec des ethnobotanistes qui ont commencé à identifier les plantes qui sont sur le mur.
Pour le moment, on en est juste à la rencontre entre nous. Et par la suite, ouais, j'aimerais bien faire ça. Moi, j'avais commencé à le faire en cherchant dans des bouquins et avec l'aide de ma mère qui adore ça. C'est elle qui m'a donné un peu l'amour... de la nature, de ce qu'on appelle la nature entre guillemets, et voilà, maintenant ouais, je vais être aidée par des ethnobotanistes, mais là on est à la phase de rencontre entre humains.
Et cette exposition, elle a lieu jusqu'à quand?
Alors là, elle est jusqu'au 16 juin et elle est visible, si je dis pas de bêtises, du mercredi au dimanche, les après-midi. Alors c'est dans la maison de l'Hôtel Dieu à Nîmes. C'est pas loin du musée de la Romanité, entre le musée de la Romanité et le sémaphore.
Super, d'accord.
Voilà. Et c'est tenu d'ailleurs par l'association Nîmes Illustres, qui s'occupe de la médiation, qui ont invité cet artiste, qui ensuite nous a invités. Et elle donne aussi des ateliers d'encre, de sérigraphie avec des encres végétales, et c'est moi qui les ai formées à réaliser ces encres végétales. Donc c'est chouette parce qu'il y a aussi cette dimension-là.
Donc là, il y a encore un autre domaine où tu t'es auto-formée, donc dans les encres végétales. Alors comment ça s'est passé?
Ben ça, c'est justement pendant le moment où j'ai fait un petit peu ma pause dans la pratique et où j'ai voulu apprendre. Ça a été un peu exponentiel, cette soif d'apprendre. Donc je me suis formée à la teinture végétale, à l'extraction des pigments végétaux et à leur transformation en produits beaux-arts. Donc ça va être peinture, pastel, encre sérigraphie. Donc tout ça, c'est des formations d'initiation. Et puis après, avec ce savoir et l'application, ben, j'apprends toujours un petit peu plus.
Et tu le transmets aussi?
Et bien là, c'était une des premières fois que je le transmettais. Et je me suis rendu compte que c'était un vrai régal, en fait, de transmettre la passion des couleurs naturelles, quoi. C'est vraiment... c'est trop, trop beau.
Donc ça, c'est quelque chose que tu pourrais t'imaginer aussi par la suite et transmettre, d'un apprentissage de comment on crée finalement des couleurs à partir d'éléments naturels de notre environnement proche.
Oui, ça c'est vrai que c'est important dans mon travail. J'ai vraiment rien envie de commander ou d'acheter. J'aime bien faire avec ce qui se trouve autour de moi parce que en fait c'est une manière de continuer à entretenir ma relation avec la planète. Et du coup, en faisant ça dans ma pratique, ça fait que ça m'offre des moments de sensation, en tout cas de grande liberté, où je vais vraiment à la rencontre des éléments du milieu naturel. Et où tout simplement je sens le vent, je vois la couleur de la terre, je vois les plantes qui grandissent là. Et c'est aussi du coup une manière d'apprendre l'écosystème qui est présent ici. Donc en fait, il y a une visée presque scientifique et écologique, quoi. Mais au départ, voilà, il y a toujours ce rapport amoureux qui guide ça. Mais du coup, ça mêle un peu tout ça.
Mais quand tu parlais de cet atelier de sérigraphie qui font maintenant des sérigraphies avec des encres végétales. Est-ce que c'est une palette forcément réduite ou est-ce que toutes les couleurs apparaissent, par exemple l'indigo?
Alors là, de toute manière, on a fait une palette réduite parce que c'est long d'apprendre plein de recettes. Et ce que j'ai fait, c'est que je leur ai donné des recettes différentes, dans le sens où il y avait une recette où on pouvait utiliser le recyclage de déchets alimentaires, donc avec les peaux d'oignons. On a fait avec une plante qui est le cosmos sulfureux, que je leur ai fait commander chez le Champ des Couleurs. Ce sont des paysannes de la couleur, comme elles aiment bien dire. Donc elles sont dans le Luberon et elles ont un champ gigantesque où elles cultivent de manière bio les plantes tinctoriales. Incroyable. Donc là, on les a achetées, mais on savait d'où elles venaient et on sait que c'est fait correctement. Et c'est aussi encourager ce métier très dur et très très beau d'agricultrice de la couleur. Et ensuite, on a fait avec du chou rouge, qui est une couleur qui ne tient pas, mais qui est super chouette parce qu'on peut travailler avec la variété des couleurs en modifiant le pH. On peut avoir des bleus, des verts, des roses, des violets. Donc il y a quelque chose d'un peu magique et qui vient une fois de plus mettre un peu de science dans la couleur. Donc voilà, on a fait une palette comme ça.
Mais ensuite, elle ne tient pas.
Celle-là, elle ne tient pas. Elle va changer de couleur. Et en fait, quand c'est pour... Là, par exemple, elle donne des ateliers. Donc, l'idée, c'est de découvrir la couleur, pas forcément de faire quelque chose de pérenne. Donc, c'est pas très grave, en fait, que la couleur tienne pas. Et puis, c'est aussi une manière d'apprendre qu'il y a des couleurs qui tiennent mieux à la lumière que d'autres. Donc, ça a une visée aussi éducative.
Et par ailleurs, tu es aussi engagée dans un travail dans un musée. Alors peut-être tu peux nous parler un peu de ça aussi.
Alors ça c'est depuis cette année, je travaille dans un musée à Alès qui s'appelle le musée PAB. C'est un musée d'art moderne et contemporain et aussi un musée bibliothèque. Et je suis très très contente parce que c'est un musée qui est dans la région où je suis née et où j'ai fait mes études. Donc ça me fait plaisir de pouvoir travailler dans la culture ici et de pouvoir transmettre. Et du coup j'accueille des scolaires qui vont de la petite section de maternelle au CM2. Parfois, j'ai des groupes d'adultes handicapés aussi. Et on va travailler autour d'une œuvre. Donc, on va rester quelques 20 minutes devant une œuvre où je vais surtout poser plein de questions au public. Comme ça, les enfants, en fait, découvrent par eux-mêmes. En fait, moi, je donne vraiment les questions. Je ne dis pas grand-chose, entre guillemets. Et après, en lien avec cette œuvre, on va essayer d'utiliser les mêmes techniques ou les mêmes couleurs pour qu'ils réalisent à leur tour une œuvre. Et ça m'a fait me rendre compte que j'aime beaucoup transmettre et ça vient redonner aussi un peu du sens, je trouve, à la notion d'art, en fait, tout simplement de se rendre compte que c'est une manière vraiment d'éveiller la sensibilité, d'éveiller les sens, de voir qu'il y a certains élèves qui sont pas forcément assidus dans certaines pratiques, et là ça peut être vraiment un endroit où ils peuvent s'exprimer et tout. Je le savais puisque c'est le chemin que j'ai choisi, mais de pouvoir le transmettre et de le voir, ça fait vraiment du bien.
Et après, il y a aussi une bibliothèque dans
dans ce musée. Enfin, c'est pas vraiment une bibliothèque dans le sens où c'est des livres qu'on va pas pouvoir consulter, ils restent sous vitrine parce que ce sont des éditions qui sont faites en très petit nombre.
C'est le livre d'artiste ?
Oui, en fait, c'est ça. Il est spécialisé dans les livres d'artistes. Donc, c'est Pierre-André Benoît qui était éditeur-imprimeur. Et avec ses amis artistes, il leur proposait à chaque fois de faire des petites éditions. Donc, l'année dernière, on a pu voir plein d'éditions réalisées avec Braque. Donc, il va y avoir des poèmes, ou parfois c'est des échanges épistolaires, et puis quelques techniques. Ça peut être des monotypes, des gravures sur carton.
Et parfois aussi des exemplaires uniques.
Ouais. Donc ça, c'est vraiment un régal de pouvoir voir ça. Et puis, moi, ça m'a rappelé que j'avais vraiment depuis toujours la passion du livre, de l'édition. Et j'en faisais pas mal quand j'étais aux Beaux-Arts, justement, des petits et grands livres.
Tu travaillais déjà avec les plantes aussi, hein ?
Oui, c'est vrai. Je me rappelle aussi que tu m'avais dit, une fois j'avais fait, parce que j'étais quand même un peu... Je me rappelle quand on devait faire des accrochages, je me mettais toujours dans un coin ou sur une petite colonne, vraiment un endroit qu'elle n'allait pas beaucoup mettre en valeur. Et j'avais accroché plusieurs choses et j'avais scotché au mur une feuille morte qui avait été un peu toute mangée et on ne voyait plus que les filaments. Et tu m'avais dit, tu sais que cette feuille, elle peut suffire si tu la mets, si tu la mets vraiment en valeur, que tu assumes de la montrer. Et c'est vrai qu'il y avait des gestes qui étaient là,
oui,
et que ouais. J'ai appris à assumer avec oui, le temps et grâce à certains conseils.
Et des fois, il faut du temps hein, pour être conscient de ce qu'on fait. Donc,
oui. Conscient et aussi assumé. J'ai l'impression que comme comme il y a toujours un premier élan qui n'est pas intellectuel dans ma pratique, c'était peut-être un peu difficile de l'assumer au départ. Et puis voilà, il y a une forme aussi de liberté, de jeu. Parfois j'ai l'impression que ma pratique, elle se construit comme un enfant construirait une cabane, c'est-à-dire qu'elle va être faite de plein de morceaux, de choses que je trouve là, de techniques qui ne sont pas toujours... ultra maîtrisée au départ puisque je suis constamment en train d'apprendre et que c'est ça qui me plaît aussi. Et du coup, c'est vrai que c'était peut-être ça qu'il fallait le temps pour s'en rendre compte et l'assumer. Ouais. Parce que en fait, je parle de nature, mais on va dire que ce milieu naturel, ce qui me plaît, c'est d'être immergée à l'intérieur toute seule. Et à chaque fois, en observant ce milieu naturel, ça va me donner... Des analogies ou des messages comme ça qui vont m'aider à traverser des choses dans la vie. Et c'est comme si j'avais une lecture philosophique ou spirituelle ou poétique du milieu naturel dans lequel on est. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait beaucoup là-dedans, c'était la notion de fragilité et d'équilibre et de puissance qui peut se retrouver aussi là-dedans. Et du coup, pendant un moment, j'ai travaillé pas mal de mobiles et de sculptures qui étaient très très fragiles. Et ça, pareil, il y avait quelque chose d'un peu dur à assumer parce que c'était pas forcément un objet qui allait être facilement vendable. Par exemple, il y avait aussi tout ce rapport au marché de l'art, quoi. De me dire que j'avais envie d'assumer un geste et une posture qui fait sens pour moi et dans ma pratique et qui ne va pas forcément se plier aux attentes de tel et tel lieu. Je vois clairement beaucoup plus... d'artistes qui ont des pratiques qui peuvent communiquer avec la mienne. Donc c'est vrai que moi, souvent, je me permets de contacter les gens et de proposer qu'on se rencontre, qu'on boive un café, de découvrir leurs ateliers, etc. Donc je vais avoir pas mal d'artistes que je connais comme ça. Et puis après, parfois même des artistes qui n'ont pas du tout des pratiques similaires. Et juste, on va partager les moments qu'on traverse. Justement, avoir un regard aussi de quelqu'un qui n'est pas du tout dans le même délire, c'est très chouette parce que c'est un regard complètement neuf. Donc voilà, j'en ai rencontré pas mal à Lyon quand j'étais dans ma friche. Et puis après, un peu, ça continue comme ça sur le chemin.
Donc maintenant, une fois installée à Alès, tu continues comme ça de faire des expos un peu partout aussi, pas seulement à Alès, mais justement à Paris, à Lyon, à Nîmes.
Oui, mais c'est vrai que pour le coup, à Alès, il n'y a pas beaucoup d'espace pour exposer. Et voilà. Mais oui, c'est vrai que je continue à exposer ailleurs et pour moi, c'est hyper important de continuer à exposer dans les grandes villes et puis aussi à l'étranger pour continuer de rencontrer les gens et puis de pouvoir montrer mon travail le plus possible.
Julia, ça te va? On s'arrête là?
Ouais, ça
oui,
me va.
La prochaine fois, je viendrai à ton atelier.
Oui, plaisir.
Bon, merci beaucoup.
Grammaire fantôme.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission Panadia Lichtig.